Jean-Rémy Provost, bonjour.
Bonjour.
Je ne veux pas faire de blague, bon, vous qui êtes directeur général de Revive, mais je regarde tout ce que vous avez été obligé de couper et je me demande qu'est-ce que vous faites?
Ah, on fait
c'est
encore
incroyable,
énormément
hein?
De choses.
Non, non, mais vraiment, là, il y a à peu près 6-7 choses que vous avez été obligé de couper. C'est vrai que moi, je m'arracherais les cheveux. Je ne sais pas s'il vous en reste, mais...
Il m'en reste moins,
ouais.
Mais ceux que j'ai, je les conserve, tout comme les services qu'on offre encore à Revive. Je vous dirais, écoutez, ça a été très, très dramatique, autant pour nous, pour les coupures qu'on a fait, mais surtout pour notre clientèle, pour les gens qui ne peuvent plus avoir accès à nos conférences, des consultations individuelles ou à des rencontres d'échange et d'informations pour les jeunes et pour les proches.
Ouais.
C'est excessivement malheureux parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ne se fasse pas demander est-ce que vous allez tenir d'autres conférences, est-ce que je peux rencontrer un intervenant ou est-ce qu'il y a des rencontres pour les jeunes.
Ouais, je peux comprendre. Karine qui disait, bon, la référence, c'est important. Chez vous, Karine, la référence, ça peut représenter, puis la consultation peut représenter, je ne sais pas, quel pourcentage des appels que vous recevez?
Ah, au moins 40%.
Bon, alors, j'imagine que dans plusieurs organismes du genre, surtout lorsque les organismes ne sont pas nombreux, c'est la même chose. Bon, juste préciser pour ceux qui l'ignoraient que... Revivre est un organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec des troubles anxieux, dépressifs, bipolaires et, bon, Jean-Rémy le soulignait, des proches. Et la problématique, c'est le non-renouvellement d'importantes sources de financement ainsi que le refus du rehaussement du soutien financier et récurrent provenant du programme de soutien aux organismes communautaires. Vous avez su ça quand, Jean-Rémy?
Ben, en fait... Ça fait des années, ça fait énormément d'années qu'on demande un rehaussement de notre subvention de la part du gouvernement. Donc, pour nous, c'est pas nouveau.
Mm-hmm.
On reçoit à peine 23 ou 24 % de notre budget de l'État. Donc, on a tout le temps fait notre part, hein, parce qu'il y a beaucoup de discussions dans la société. Bon, ben, est-ce qu'on doit faire notre part? Nous, on le fait depuis déjà longtemps. Ce qui s'est passé parallèlement à ça, c'est que donc, on a eu un refus du gouvernement de rehausser notre financement de base, et ça a été la même réponse pour les autres organismes par ailleurs. Mais en même temps, il y a des importantes sources de financement au niveau corporatif, entre autres, qui n'ont pas renouvelé leur engagement. Et écoutez, c'est le lot des organismes communautaires, hein, c'est là où le bas blesse. Lorsqu'on est en recherche constante de financement, à un moment donné, il y a de plus en plus de concurrence,
ouais.
Je vous dirais, au niveau de la philanthropie
c'est
aussi.
C'est ça. On en parlait la
toute cause
dernière.
Étant bonne par ailleurs, il y a de la concurrence et il faut vraiment se démarquer.
D'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait la semaine dernière lorsqu'on causait avec une consultante. Elle disait que les gens ont besoin de se sentir impliqués. Le checkbook charity, ça va fonctionner pour certaines entreprises, mais... Le saut de glace en est un exemple. Les gens aiment participer, aiment se sentir impliqués d'une quelconque façon. Semble-t-il que c'est la solution maintenant à prioriser. Est-ce que vous avez droit ou vous pourriez peut-être tordre l'oreille à Centraide?
On a déjà fait des demandes auprès de Centraide, mais on n'est pas un habitué de longue date à Centraide, puis il faut savoir aussi que lorsqu'on demande une subvention à Centraide, c'est que dans le laps de temps où eux font leur campagne de financement, les organismes ne peuvent pas tenir d'événements de financement. Donc, nous, ça nous contrecarrerait énormément. Puis, deuxièmement, c'est que les subventions qu'on pourrait recevoir, ce serait de très petites sommes comparativement à d'autres qui sont déjà financées depuis plusieurs années par Centraide.
Lorsqu'on se voit obligé de couper... Dans les services, comment fait-on les choix appropriés?
Comment fait-on? On analyse les besoins. On prend les colonnes de chiffres d'abord. Ça a l'air un peu froid et distant, mais il faut regarder le budget. Après ça, il faut regarder dans ce que l'on peut garder comme source de base. Je vous donne un exemple. Notre ligne d'information et de référence, bien, c'est une de nos deux portes d'entrée, l'autre étant notre site Internet. Ça, c'est un outil essentiel qu'on ne pouvait pas couper. Pourquoi qu'on coupe les conférences? Il y a eu un choix stratégique de dire, bien, il y a de plus en plus de conférences en santé mentale.
Ouais.
Donc, les gens ont accès à à l'extérieur de Revive à des conférences. Des consultations individuelles, il peut en avoir ailleurs, mais bon, ça a été un choix de couper ça, contrairement à des groupes d'entraide où on a 4 plages horaires par semaine, et ça, c'est essentiel. C'est une autre façon d'entrer en contact avec Revive, puis avec ce que les gens vivent sur le moment, et de rencontrer des gens qui vivent la même chose. Donc, on se devait de faire des choix stratégiques en fonction des besoins des gens.
Est-ce que j'ai lu quelque part 24 % avez-vous une idée du manque à gagner principalement maintenant avec certains donateurs corporatifs qui ont été obligés de se retirer?
Bien, je vous dirais que notre manque à gagner se situe entre 200 et 250 000 $ dépendamment des besoins. Et si on voulait repartir la machine telle qu'elle était il y a à peu près un an et demi, bien, c'est un 250 à 300 000 $ qu'on aurait besoin annuellement pour vraiment combler tous ces besoins-là. Et je vous dirais que parallèlement à ça, le réseau de la santé nous réfère de plus en plus de gens parce qu'eux-mêmes sont pris avec des listes d'attente interminables. Donc, le paradoxe, c'est qu'on a coupé des services, mais on a de plus en plus de demandes de gens provenant de l'extérieur.
Ouais.
C'est pas futile de rappeler aux gens, aux auditeurs, que du budget de la santé, il y a seulement 6 % qui est consacré à la santé mentale, ce qui est anémique, ce qui est pas correct, ce qui est une aberration selon moi. Donc, il faudrait investir pas mal plus en santé, d'autant qu'on est tous concernés. Soit qu'on est nous-mêmes atteints, que ce soit quelqu'un de notre famille autour de nous, on connaît tous quelqu'un qui a une problématique de santé mentale et c'est pas pour rien que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la dépression est une épidémie.
Ouais, ouais.
C'est quand même important, là.
Selon vous, les coupures appréhendées et annoncées fin septembre, est-ce que c'était un ballon ou vraiment les agences? Les textes que j'ai lus, ça semble un fait accompli. Et je présume que même si ça ne touche pas un organisme comme le vôtre, du moins à ce moment-là, parce qu'il y aura moins de services, il y a des gens qui vont avoir plus besoin de vous. Là. C'est un domino.
Bien, est-ce que c'est un ballon? Je pense que oui, mais en même temps, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai l'impression que les agences tentent de couper parce qu'on leur demande de couper prennent des décisions et ça sort dans les médias et là, il y a des réactions, mais ça peut être aussi en même temps un ballon d'essai politique pour savoir comment les gens vont réagir à ça. J'ai été très content de la réaction des gens parce que très souvent, la santé mentale fait moins parler d'elle que d'autres problématiques comme le cancer, par exemple.
Ouais.
Donc, j'ai été agréablement surpris que ça se soit que les gens aient réagi quand même assez tôt. On ose croire que les paroles du ministre la journée même qui a demandé à l'agence de refaire leur devoir, que ça va vraiment se concrétiser, mais je commence à avoir pas mal de cheveux gris, puis j'ai juste peur quand on mentionne que ça n'aura pas d'incidence sur les services. Il va falloir regarder ça de près parce que forcément, à un moment donné, si on fait des coupures, ben à un moment donné, les gens peuvent écoper.
Ben, surtout qu'on se souvient, il n'y a pas tellement longtemps, sous un autre gouvernement, qu'il y avait eu annonce d'augmentation des taxes scolaires et la ministre de l'Éducation avait fait les gros yeux en disant « Non, 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 vous allez retirer ces taxes-là aux commissions scolaires. » Et finalement, d'une chose à l'autre, les élections ont fait en sorte qu'il n'y a personne qui a eu une diminution, là. Alors, ça pourrait très bien... Le ballon est peut-être plutôt cette idée de « il n'y aura pas de coupure » que les coupures elles-mêmes.
Tout à fait. Puis, dans les ballons, on peut annoncer des coupures de 9 millions, puis on peut arriver avec des coupures de 5 millions, mais les coupures de 5 millions sont totalement inacceptables.
Ouais.
Des fois, on avale la pilule, on fait avaler la pilule en réduisant de moitié ce qui était préalablement annoncé.
Ouais. À ça vaut le détour, cette fin de semaine, on parle également de problèmes de santé mentale avec le prisme du CHUM et de la mission Oldbury. L'itinérance, c'est justement un domaine que vous laissez à d'autres?
Oui, absolument. C'est sûr que c'est une problématique en soi, bien qu'il y a un fort haut pourcentage d'itinérants qui ont une problématique de santé mentale, mais de toute façon, à l'intérieur même, de la santé mentale, il faut travailler en collaboration avec les autres ressources. On ne s'occupe pas de la schizophrénie ou des troubles alimentaires ou tout ça. Donc, déjà, les troubles anxieux et de l'humeur, ça accapare pas mal de notre temps et c'est parfait qu'il y a des organismes qui s'occupent d'itinérance. Donc, il faut travailler en collaboration à ce moment-là, puis c'est ce qu'on fait.
Ouais. Vous parliez de, bon, s'entraide, c'est peut-être un problème, entre autres, parce que ça nous oblige à ne pas avoir d'événements de levée de fonds. Vous en avez un dans les prochains jours. Il vous reste une minute pour faire votre annonce.
Ben, en fait, on invite les gens à venir marcher avec nous dimanche le 5 octobre, inscription à 10 h. La marche est à 11 h. C'est au Carré Phillips, au coin Sainte-Catherine et Union. Revive collabore depuis presque la première édition. C'est la 6e édition à Montréal Marche pour la santé mentale. Et le but étant de combattre les préjugés à l'égard de la santé mentale et de démystifier la maladie mentale. On espère des milliers de gens à être avec nous puis à parler haut et fort pour qu'on soit enfin reconnus pour qu'on puisse aider le plus de gens possible.
Ouais. Bonne continuité. Les informations pour joindre Revive sont sur la page d'Accès Libre. Mais c'est pas simple, encore une fois, on le constate dans ce milieu-là. Jean-Rémy Provost, directeur, bonne fin de semaine à vous, Jean-Rémy.
Bien, merci à vous.